C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Je suis le commissaire remplaçant parce que le commissaire Ferrandaise a sans doute loué une communauto et est parti quelque part avec l'enfant pour dans le cadre de la relâche scolaire.
Tout à fait.
Mais notre premier dossier ce matin, c'est le dossier Northvolt, évidemment. Puis la question depuis hier, depuis la sortie du ministre Benoît Charrette, est-ce que le gouvernement a menti dans le dossier?
Non, Paul. Le gouvernement n'a pas menti dans le dossier, mais il a manqué de beaucoup de transparence. L'affirmation qu'a fait Benoît Charrette à l'effet que le BAP, s'il y avait eu un BAP, l'entreprise n'aurait jamais vu le jour au Québec. L'investissement ne se serait pas concrétisé. Ben, ce genre d'affirmation aurait dû être fait en début, là, dès le début de la confirmation d'investissement de Northvolt au Québec. Là, c'est arrivé trop tard. Et depuis plusieurs mois, il y a un climat de suspicion qui s'est développé autour de ce dossier-là, qui mine le dossier Northvolt. Et c'est bien dommage parce que fondamentalement, c'est un bon dossier. C'est un bon citoyen corporatif, Northvolt. Et moi, je trouve ça très dommage de voir la tournure des événements. Sur le plan de la communication publique, le gouvernement, là, écoute, c'est DEF comme note. C'est un complet dérapage. Alors, le ministre Benoît Charrette a dit, écoutez, donc, pas de BAP. S'il y avait eu un BAP, parce que le BAP aurait duré 18 mois, il n'y aurait pas eu de projet. Il nous a dit ça. Puis, deuxièmement, il nous a dit, on est extrêmement rigoureux. On a des normes environnementales les plus rigoureuses au monde. Là-dessus, on a un petit doute, parce que le ministre nous a pas fait la démonstration du contraire. Par contre, cette affirmation qu'il a fait hier, ça aurait dû être fait par Pierre Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon, c'est le ministre de l'économie. Là, le ministre de l'Environnement se comporte comme s'il était le ministre de l'économie. Et ça lui cause un énorme préjudice. Parce que dans ce dossier-là, on n'a pas l'impression que le ministre de l'Environnement fait son travail de ministre de l'Environnement. D'ailleurs, Luc probablement déchirait sa chemise ce matin puis manquerait de boutons sur sa chemise tellement il serait sans connaissance. Le ministre que tu as eu à ton micro, Benoît Charrette, semblait minimiser le fait que le BAP aurait compromis le projet. Mais c'est une information qui est fondamentale. Parce que si il avait dévoilé cet aspect dès le début du projet, toute la communication, tout le message gouvernemental aurait pu être structuré autour d'une information si importante. Par exemple, il aurait pu dire au gouvernement, écoutez, là, on a un choix à faire. Si on fait un BAP de 18 mois, Northvolt vient pas s'installer au Québec. Alors, on a deux options. Soit on fait pas le BAP ou soit on trouve le moyen de faire un BAP dit accéléré. D'ailleurs, là-dessus, je sais pas si tu as posé la question au ministre, je ne crois pas, mais est-ce que ça aurait été possible de faire un BAP accéléré? Je sais pas, moi, 5 mois, 6 mois, par exemple. Jusqu'à maintenant, on n'a pas évalué, enfin, on semble pas avoir évalué cette option-là. Je sais pas, toi, ce que tu en penses, Paul Arcand. Penses-tu que le gouvernement a menti? Moi, je crois pas, Paul. Moi, je crois pas.
C'est pas une question de mensonge, parce que c'est... Comment je te dis? Tu dis ce que tu dis. Puis ça veut pas dire que c'est la vérité à 100% et au complet. Il peut en manquer un bout. Moi, je vais te raconter comment je le vois depuis le début de l'affaire Northvolt. D'abord, il y a un déséquilibre politique entre le ministre de l'Énergie, le tout-puissant, M. Fitzgibbon, et le ministre de l'Environnement, M. Charrette. Pierre Fitzgibbon débarque, puis il dit à son PM, écoute bien, là, on a une compagnie, Northvolt, ils sont prêts à venir au Québec. C'est le plus gros investissement des 20 dernières années. On peut pas l'échapper. Puis là, voici, ils ont besoin de tant d'argent. Le fédéral va embarquer, mais il y a un petit problème à soulever. C'est le BAP. Le BAP, là, c'est trop long. Tout moyen de tasser le BAP. Bon. Je suis sûr que c'est ça. Puis là, ils ont dit à Benoît Charrette, on va tasser le BAP. Ouais. On peut pas l'échapper. Tu peux pas passer à côté de ce projet sur un terrain qui est le terrain de la CIL qui faisait des explosifs. C'est pas là, comme il avait dit, les jardins d'Éden. Là, on n'est pas là bon, il y a des enjeux qui sont réels. Des enjeux pour la rivière Richelieu, pour la qualité de l'air dans le coin. Et beaucoup, on n'en parle pas souvent, mais l'impact sur la route 116, qui est déjà une route surfréquentée, tout ça aurait dû être évalué. Et moi, je pense que le gouvernement a dit, si on dit ça tout de suite en partant, là, on va avoir un paquet de compagnies qui vont dire, nous autres, on n'en veut pas de BAP, puis venez pas nous achaler avec le BAP, puis nous autres, je pense que ça a été un élément. Moi, je me serais attendu que le ministre de l'Environnement, au début, se lève puis dise « On fait pas le BAP, je suis pas d'accord avec ça, je pense qu'on aurait dû le faire, mais je comprends que dans la situation actuelle, il y a un enjeu majeur. Et donc, on va mettre des procédures, on va faire ça, on va faire ça. » Mais je me serais positionné comme, au moins dans le gouvernement, le défenseur de l'environnement. T'sais, là, on peut pas dire que c'est ça, là.
Là-dessus, je te suis. Il y a eu une erreur de positionnement, je le disais tout à l'heure. Quand tu as l'impression que le ministre de l'Environnement, c'est le ministre de l'Économie, on a un problème. Puis ça fait bien l'affaire en passant de Fitzgibbon de voir son collègue manger la volée de bois vert lorsqu'il répond aux questions. Quand tu dis, je pense que le gouvernement a tassé le BAP, ça m'a fait réagir parce que moi, je crois pas que le gouvernement a tassé le BAP. Moi, je pense que le gouvernement a dit, écoutez, on a un problème, clairement, parce que c'est un coup fumant, l'histoire de Norvolt. Il faut juste revenir un petit peu en arrière. Là. Norvolt n'était pas du tout sur l'écran radar du Canada, du Québec. C'est grâce au travail de prospection de François-Philippe Champagne, de Pierre Fitzgibbon, qui ont réussi à convaincre les patrons de venir s'établir au Québec, moyennant, bien sûr, une généreuse contribution pour permettre à l'entreprise de s'installer chez nous. Mais sur le plan politique, clairement, il y a une erreur. En fait, on a sous-estimé la réaction du public, puis probablement qu'on nous a pris un peu pour des valises. Mais en pensant qu'on allait acheter l'histoire, tu comprends?
Mais Nathalie, je te dis, Madame la ministre, j'ai des compétiteurs, puis je peux pas retarder le projet. Je te demande pas d'enlever le BAP, je te fais comprendre que le BAP me dérange. Je sens que tu as le demander, là.
Exactement. Voilà, tu viens d'exposer la façon dont ça s'est passé, tout en subtilité. Parce que, dans le fond, Benoît Charrette, il est ministre de l'Environnement, puis il voit Norvolt arriver, là, tu sais, c'est comme un gros dirou, là, qui arrive. Puis, je peux-tu te dire une chose, qu'il comprend vite qu'il a intérêt à pas trop mettre de bâton dans les roues du projet. Et je veux te dire, mon cher Paul, c'est pas pour défendre un ministre de l'Environnement, mais c'est très difficile d'être un ministre de l'Environnement dans un gouvernement. Parce que c'est un ministre qui est pris entre l'arbre et l'écorce. Tous les gouvernements poussent pour développer l'économie, poussent pour accueillir des investisseurs. Je connais pas un gouvernement là qui a pas poussé sur cet enjeu-là, qui est souvent l'enjeu numéro un avec la santé et l'éducation. Alors le ministre de l'Environnement, lui, se retrouve souvent, tu sais, punché au coin de la patinoire, puis dans une position qui souvent crée de l'inconfort, puis projette l'image d'un ministère qui s'écrase devant la machine du développement économique.
Non, mais est-ce que tu as le droit comme ministre de dire
oui?
Je suis pas d'accord avec le fait qu'on enlève le BAP, mais dans ce cas précis, ça se défend.
Oui.
Est-ce que tu peux dire ça au début d'un projet?
Ben, c'est-à-dire
que au moins, tu as l'air de quelqu'un qui défend l'affaire.
Tu peux le dire, Paul, mais il y a une manière de le dire. Parce qu'il y a un concept qui est fondamental dans la bonne gestion des affaires d'un gouvernement, c'est la solidarité ministérielle. Alors, les ministres sont solidaires des décisions qui sont prises par le gouvernement. En privé, tu peux faire part de tes objections, mais généralement, en public, tous les ministres sont solidaires des décisions et les députés sont solidaires du gouvernement. Dans ce cas-ci, le gouvernement, pour protéger, le bureau du premier ministre, pour protéger son ministre de l'Environnement, aurait très bien pu organiser un message sur le plan politique qui aurait tenu la route et qui aurait permis au gouvernement là de récolter davantage d'appui plutôt que de susciter la méfiance. Parce que là, cette histoire-là, quand je parle de dérapage, c'est vraiment ça. Sur le plan de la communication publique, là, moi, j'ai rarement vu ça parce que l'impression qu'on a, c'est que, coudonc, tous les projets que tente de faire avancer la CAQ s'en vont dans le mur.
Mais je te dirais une chose, par exemple. Moi, je ferais bien attention entre l'espace occupé par les opposants et l'opinion publique. Parce que je pense qu'il y a deux affaires. Est-ce que le gouvernement s'est fait mal? Oui. Ça, c'est indéniable en termes de crédibilité, pas en termes de com. Là, si tu veux donner un cours 101, voici ce qu'il faut pas faire. Là, tu viens d'avoir les trois tranches.
Exactement.
Mais là, les gens commencent à être tannés. Parce que les gens, là, ils veulent des jobs. Les gens disent, c'est quoi le problème avec cette compagnie-là? Et Norvolt va bâtir une entreprise pour faire des batteries pour des voitures électriques. En gros, des composantes. Là. Mm-hmm. On a besoin de ça. Mm-hmm. C'est quoi le problème? Moi, je reçois depuis hier, puis même avant ça, des gens qui disent, là, ça va faire, là, le Norvolt bashing. Là.
Exact. Mais je suis d'accord, parce qu'il y en a pas...
Je pense que l'opinion publique est pas à la même place que les opposants.
Là-dessus, je te suis totalement... Norvolt, c'est une bonne entreprise. Encore une fois, remettons les choses dans leur contexte. Norvolt, c'est un joueur majeur qui a émergé en Europe pour faire face à la compétition des géants que sont le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Alors, puis le joueur qui est à blâmer, là, c'est pas Norvolt. Norvolt, tout ce qu'il fait dire, c'est on va se conformer aux règles qui sont en vigueur. Mais c'est le gouvernement qui nous a pas raconté toute l'histoire avant, tu comprends-tu, de démarrer ce grand projet.
On s'arrête là-dessus. Au retour, on va parler de l'IVAC. C'est quoi une victime d'actes criminels? Je pense qu'on n'est pas trop sûr maintenant.
La commission Normando-Ferrandaise.
Un deuxième sujet ce matin, ça découle évidemment de cette chronique d'Isabelle Haché dans La Presse, où on apprend qu'une femme qui a été harcelée par son ex-conjoint à répétition, qui a voulu lui empoisonner la vie, se fait indemniser par l'IVAC, qui en principe indemnise les victimes d'actes criminels. Et il y a comme deux volets à cette nouvelle. D'abord, que quelqu'un puisse obtenir une indemnité, c'est étonnant. Mais c'est surtout qu'après avoir déposé les jugements de cour, parce que le gars a été condamné, il a fait de la prison pour harcèlement, après avoir déposé les analyses de la DPJ parce qu'il respectait pas les engagements de garde d'enfants, a fait croire à l'IVAC que l'enfant avait été maltraité par la mère et que l'enfant, parce que le couple a eu un enfant, était une victime d'actes criminels, malgré des documents déposés, on a maintenu l'indemnité. Et c'est ce volet-là qui choque. Je vais vous raconter une histoire ce matin pour montrer pourquoi on en est rendu là. Il y a plusieurs années, il y a une femme qui me contacte, victime de harcèlement, puis c'est un divorce, une séparation qui a mal tourné, puis un enfant, que le couple se partage la responsabilité. Puis là, ça dérape. Puis je me souviendrai toujours de ça parce qu'il y avait à chaque fois beaucoup d'hostilité entre les deux. Il venait chercher l'enfant, puis ça s'engueulait, puis bon. Un jour, il est venu, puis il gueule pas.
Oh.
Il est comme pas si pire. Puis ça la rassure dans un sens.
Il a pris de la camomille?
Non. Non? Non. Il avait décidé de tuer l'enfant, puis de s'enlever la vie. Il était serein. Donc, il n'y avait plus d'agressivité. C'était décidé. Et c'est ce qu'il a fait.
Non.
Ouais. Et finalement, il devait ramener l'enfant, il l'a pas ramené, on appelle la police fouille et trouve le corps du père et de l'enfant près de la maison. Ce sont les policiers qui font la découverte. La mère fait une demande d'indemnisation à l'IVAC en disant « Je suis victime, mon fils a été assassiné par son père, par mon ex-conjoint, je suis victime d'actes criminels. » On lui a répondu à l'époque « Est-ce que vous avez découvert les corps? Avez-vous vu les corps? Avez-vous été témoin de ce qui est arrivé? » La réponse, c'est non. On n'a pas laissé la femme s'approcher. On a dit « Bon. »
Qu'elle n'a pas été témoin du crime commis par son
ex-conjoint. Et ça faisait en sorte qu'elle n'était pas indemnisée. Donc, on a voulu modifier la loi puis rendre ça plus simple, plus souple, en disant « Faites-nous une déclaration, on va se fier sur votre bonne foi, puis vous êtes victime d'actes criminels. » Sauf qu'à un moment donné, je peux comprendre au début, mais ce que je comprends pas, c'est quand t'as la preuve que c'est pas une victime, mais que c'est un agresseur, comment ça se fait que tu maintiens l'indemnité?
Paul, premièrement, félicitations à Isabelle Haché. Il y a personne qui peut lui reprocher de pas être rigoureuse. Hein. C'est une histoire incroyable, très choquante. Lorsque le ministre Simon-Jolin Barrette a confirmé la réforme de l'IVAC, il s'est dit c'est la loi dont je suis le plus fier. Parce que c'est une loi qui va permettre d'aider concrètement les Québécoises et les Québécois. Puis effectivement, on a beaucoup, le ministre a beaucoup insisté sur la simplification maintenant du processus. Tu as dit un mot qui est le mot-clé, la bonne foi. Maintenant, l'IVAC se fie sur la bonne foi de la personne qui demande de l'indemnité, être indemnisée, on a juste à remplir un formulaire de 3 pages. Dans le cas du cas en question, là, qui est publié par Isabelle Haché, elle l'appelle Alexandre, l'ex-conjoint, un nom fictif. Lui a rempli 2 formulaires, le sien puis celui de sa fille. Mm-hmm. Il a prétendu auprès de l'IVAC que c'est sa femme qui s'en prenait à la petite puis qu'il avait été victime de sa femme. Comme tu l'as bien dit. Honnêtement, c'est gênant, choquant, frustrant. Et ce que je ne comprends pas dans l'histoire, c'est comment se fait-il qu'avec toutes les preuves qui ont été... Parce que Justine, c'est le nom fictif donné à l'ex-conjointe, Justine a appelé l'IVAC, a dit « Écoutez, il vous raconte des histoires, mon ex, là, ça n'a pas de bon sens, c'est du grand n'importe quoi. » Malgré tous les documents de cour présentés, les preuves apportées par Justine, ben, l'IVAC se ferme les yeux en disant « Ben non, il n'y a aucun problème, on considère monsieur comme étant une victime. » Alors que le gars a été reconnu coupable de harcèlement, de violence conjugale auprès de son ex-conjointe, il a été déclaré plaideur quérulent. Donc, ça veut dire qu'il a tellement utilisé le ministère, le système de justice pour se défendre qu'on l'a déclaré plaideur quérulent. L'autre chose, il a été déchu de son autorité parentale. Fait qu'on est face à un gars, un profil, c'est un manipulateur, c'est un abuseur et c'est un fraudeur. Et aujourd'hui, l'IVAC se ferme les yeux en continuant de prétendre que ce gars-là peut être indemnisé. Ben non, mais écoute, allô,
mais
allô,
question,
ici la Terre,
la question
là,
plus large que ça, là.
Oui. Mais est-ce que l'IVAC est devenu un bar ouvert?
Oui, mais comment je dirais? Et Jolin Barrette a raison, là. Il fallait rendre ça plus accessible. Il fallait permettre aux victimes d'avoir de l'aide plus rapidement. Ça, c'est parfait, là.
Plus rapidement, moins longtemps, par contre. Puis il y a un plus grand nombre de victimes maintenant qui reçoivent de l'aide.
J'ai des parents qui m'écrivent, là, des parents d'un ado qui a été agressé sexuellement. Puis on dit qu'une agression chez une ado, ça vaut 200$ par mois. Tu sais, on peut débattre, là. Mais,
oui.
Mais jusqu'à quel point on peut faire confiance à la bonne foi au nom d'accélérer les procédures?
T'sais, très bon point.
La PCU, c'était ça, là. On faisait pas d'enquête. On disait, c'est vrai, le monde en a besoin. Mais bon, c'est pas tout du monde honnête, là, qui se pointe au guichet, là.
Mais, et Paul, il y a la bonne foi, mais le processus lié à la vérification des informations qui se retrouvent sur le formulaire en question.
Ouais.
Parce que, je veux dire, là, on est-tu en train de nous dire qu'on rubber stamp, c'est-à-dire que les fonctionnaires reçoivent le formulaire 203, ping, away go, on passe, puis on donne l'indemnité? J'espère que non. Quelle vérification sont faites? Est-ce que, je sais pas,
les antécédents... Ils ne peuvent pas faire une enquête, mais mettons qu'au début, ils donnent là, les yeux fermés.
Parce qu'on... Oui.
Mais après, quand on te fait la démonstration,
c'est là
que ça n'a pas de sens.
Exactement. Et je suis convaincue ce matin que lorsque le ministre Simon-Jolin Barrette a lu l'article, la chronique d'Isabelle Haché, je suis convaincue qu'il était hors de lui. Le ministre a une seule chose à faire ce matin, c'est donner instruction à l'IVAC de mettre fin aux indemnités de ce monsieur. Parce que là, attendez, là, c'est pas terminé.
Peux-tu faire ça?
Ben, j'espère qu'il peut le faire. J'espère, Paul, qu'il peut le faire. Parce que lui, c'est lui qui a piloté la réforme de l'IVAC.
Non, je comprends, est-ce que tu peux, comme ministre, débarquer dans un dossier puis dire, lui, là, out?
Ben, moi, je pense qu'il y a un appel qui peut être fait.
Discret,
subtil, peu importe les qualificatifs qui laissent entendre que. Mais je peux pas croire que ce matin, à l'IVAC, il n'y a pas personne qui se dit, ben, voyons, on l'a peut-être échappé. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que cette histoire entache la crédibilité de l'organisation, de cette institution, qui est l'IVAC. Écoute, ça, on indemnise depuis les années 70. Là. Et la grande réforme comme ligne ministre, c'est la première grande réforme qui a été faite. Alors, ces genres de cas qui non seulement entachent la crédibilité de l'organisme, mais entachent aussi porte ombrage à la réforme comme menée Simon-Jolin Barrette là-dessus. Et imagine, parce que cette femme qui a vécu là, l'enfer, on s'entend, là, il la harcelait, ça, jamais il l'a lâché. Là. Il utilisait tous les stratagèmes possibles pour lui pourrir la vie. Mais cette femme-là, aujourd'hui, là, est pointée du doigt par l'IVAC en disant c'est peut-être vous, finalement, là, qui êtes la victime, qui êtes l'agresseur dans le dossier.
Mais
là.
Quel message t'envoie à ta fille si elle est indemnisée pour violence,
ben voilà.
Qu'elle est victime de l'acte criminel posé ou commis par sa mère.
C'est pour ça que la pauvre Justine, elle se débat comme un diable dans l'eau bénite. Elle a tout fait pour dire à l'IVAC, écoutez, vous vous trompez. Ce gars-là, il est en train de vous mener en bateau. Puis vous voyez plus clair, là, parce que ça doit être un grand manipulateur, on s'entend. Ah. Puis écoutez bien ça, la cerise sur Sunday, c'est que ses indemnités, on lui paye un abonnement dans un club de golf, Waterloo Granby. Le gars, il se vante de ça, d'aller jouer au golf, parce qu'il est indemnisé par l'IVAC, toi. Et c'est le monde à l'envers.
Merci.
C'est 23.